1, 2, 3, 4. Crazy Afrobeat.
Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Bonsoir, vous êtes à l'écoute de Radio Django et c'est une nouvelle édition du Grand Direct en ce mardi 22 mars. 5 sujets au menu, on va commencer avec toi Fanny, bonsoir.
Bonsoir.
Et nous allons chausser des rollers.
Exactement, et s'amuser un peu en compagnie du Lausanne Rolling Furries.
Oh, ça rigole pas. Voilà, dans un instant, on va parler rollers donc. Et puis, avec toi Yves, bonsoir.
Merci, bonsoir.
Nous allons fêter un anniversaire, si je peux le dire, les 1 an du collectif R.
Exactement, ce soir, donc on parle anniversaire, on parle de l'occupation du refuge de cette lutte contre le système Dublin avec Pierre Conscience et on va donc parler lutte, résistance et désobéissance.
Ouais, un gros programme pour ce début de Rose des Vents. Et enfin, comme chaque mois, nous allons recevoir la rédaction de Voix d'Exil avec Rama ce soir. Nous parlerons des étudiants syriens qui font leur vie ici en Suisse. Et puis, un peu de musique, nous recevrons Albert de Gruffy. Pardon, qui nous... voilà, je m'étrangle. je disais donc, nous allons recevoir tout à l'heure en culture Albert de Gruffy qui nous parlera de son album Tout au long du voyage. Rendez-vous donc à 7h15. Enfin, pour terminer, une nouvelle chronique cinéma dans ce grand direct. Elle est intitulée Les Mardis de Stéphane Venanzi. Oui, du cinéma, il en est question ce soir. Et les autres semaines, voilà, ça changera. Il y aura de la culture, de la musique, de la littérature. Enfin, plein de choses à découvrir. Ce soir, nous parlons de Lausanne Rolling Furies, le bilan après 1 an. Du collectif R, des étudiants syriens en Suisse et à Lausanne en particulier. Nous accueillerons Albert de Gruffy et les mardis de Stéphane Venanzi. C'est le programme de ce mardi 22 mars sur Radio Django. Émission à suivre comme chaque mardi en direct et en public de Pôle Sud ou à écouter sur radio.django.fm. Je suis Fabien et je vous accompagne jusqu'à 19h. Soyez les bienvenus.
Radio Django, vivre à Lausanne.
Dans Vivre à Lausanne, nous partons aujourd'hui à la rencontre d'une association sportive peu connue, Fanny.
Et oui, Fabien, nous avons l'honneur d'accueillir ce soir sur le plateau de Radio Django deux membres de l'association The Lausanne Rolling Furries, qui est en fait une équipe de sport qui pratique du roller derby.
Et donc, pour entrer dans le vif du sujet et comprendre ce qu'est le roller derby, nous recevons autour de la table Anna et Camille. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur les ondes de Radio Django. Vous êtes toutes les deux joueuses actives en matière de roller. Alors expliquez-nous tout d'abord ce qu'est le roller derby.
Alors le roller derby, c'est un sport d'équipe avant tout, essentiellement féminin. Pour l'instant, en tout cas à Lausanne, on est équipe de femmes. C'est un sport qui se joue sur des patins à roulettes quad, donc les patins plutôt old school, pas en ligne.
C'est pas les inline, hein, c'est ça.
Non, c'est ça, exactement. Et c'est un sport d'équipe, donc on est 5 joueuses sur le terrain par équipe qui s'affrontent sur un terrain ovale.
Ah, c'est intéressant, ça change.
Exactement, oui.
Et comment se passe un match ou se déroule, quelles sont les règles, comment se déroule une partie?
Alors, des règles, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a 70 pages, en fait, de règles qui sont très compliquées.
C'est presque une Bible.
Oui.
Un peu, oui. Tout, c'est très important parce qu'en fait, un match, ça se déroule de la manière suivante. Il y a par équipe, donc 5 joueuses sur le terrain, comme le disait Anna. Et par équipe, une de ces 5 joueuses doit dépasser les quatre joueuses de l'équipe adverse. C'est-à-dire qu'elle va essayer en fait de les doubler sur le terrain, donc de passer à travers ces 4 joueuses qui vont former un mur. Donc elles seront alignées sur ce terrain donc ovale, qui est un peu comme un vélodrome mais plat. Et en fait, cette joueuse qui s'appelle la jammeuse va récolter des points en doublant les 4 joueuses adverses qui évidemment ne vont pas la laisser passer.
Mais alors, il n'y a pas de puck comme hockey, donc on tourne.
On tourne, exactement.
Comme les chevaux sur un hippodrome.
Exactement. Les points sont marqués par la joueuse, justement, la jammeuse, qui a cette étoile sur le casque, qui va en fait essayer de passer, et les autres vont la bloquer. Donc c'est aussi un sport de contact.
Surtout
et aussi un sport de contact.
C'est violent, dangereux, vous avez des bleus à la fin d'un match?
Des bleus, oui, on en a, souvent, même aux entraînements. Mais c'est violent, non, c'est pas violent, c'est vraiment un sport de contact, donc faut rentrer dedans, faut pas avoir peur de prendre
Ouais, de prendre des coups.
Voilà, de prendre des coups, mais il n'y a pas de violence, parce que l'intention, ce n'est pas de faire mal, l'intention, c'est vraiment de passer. Et il y a vraiment beaucoup de règles, c'est très strict au niveau de l'utilisation des parties du corps, où est-ce qu'on peut toucher, où est-ce qu'on ne peut pas toucher.
Et du coup, il y a des chutes, j'imagine aussi, qui peuvent être un peu...
Oui,
oui mais toujours maîtrisées. On a une manière de tomber qui est tout à fait maîtrisée, voilà. Et on a aussi une manière de frapper qui est maîtrisée. Donc c'est fort, c'est percutant, mais c'est très ciblé, en fait. On ne va pas foncer dans le dos, dans les jambes, dans la tête des joueuses adverses. On va vraiment essayer de taper sur leur flanc, leur épaule, leur hanche, leur cuisse.
Pour un peu, revenir un peu sur le contexte du roller derby, est-ce que c'est un sport récent ou comment est né ce sport? D'où vient-il?
Alors, c'est un sport qui vient des États-Unis, qui a presque à peu près 100 ans, en fait, dans les années 30 que ça a commencé. À la base, c'était un sport de vitesse. Donc, c'était vraiment de la vitesse sur des terrains qui étaient penchés, en pente. On n'en a pas tellement ici. Mm-hmm. Et après, ça s'est transformé un peu en show, en fait, où tous les coups étaient permis. Et petit à petit, ça s'est encore plus transformé. C'est devenu vraiment un peu comme du catch sur patin à roulettes. Mm-hmm. Et je pense que ça a toujours été un peu un sport féminin. Et par la suite, ça a pas mal disparu parce qu'il y a eu beaucoup d'argent là derrière. C'était très monétisé, puis c'était du spectacle. Il n'y avait plus vraiment de sport ni d'improvisation. Et c'est en 2001 que mm-hmm. l'équipe de Texas s'est créée. Et ça a vraiment relancé en fait le roller derby. Elles ont réinventé le roller derby et vraiment dans l'éthique très
do it yourself en fait. Voilà. En fait, c'est vraiment une bande de filles qui sont un peu issues du mouvement Riot Girl, les punks. On prend nous-mêmes notre destin en main, on devient notre propre héros en fait. Il y a un slogan qui dit n'admire pas le héros, mais deviens-toi ton propre héros. Et en fait, elles ont repris vraiment ce sport en main. Elles ont recréé une association. Elles ont vraiment remis ça en place.
Et du coup, en Suisse, donc vous avez créé votre association en 2015 à Lausanne. Est-ce qu'il y a d'autres associations en Suisse, plusieurs équipes? Ça se passe comment
Alors, la plus vieille équipe, c'est à Zurich. Ça fait à peu près 4 ans qu'elles existent. Et sinon, en Suisse allemande, il y a quelques équipes qui ont quelques années. Et en Suisse romande, c'est vraiment en train de déclore chaque semaine. Enfin, l'équipe de Fribourg s'est créée il y a quelques semaines. À Neuchâtel, c'est en train d'être montée. Il y a Genève qui est là depuis 2 ans maintenant. Berne, Bâle, Lucerne. Et nous, donc, à Lausanne, l'association s'est créée en 2015, donc en mai 2015. Et c'est vraiment parti d'une envie de quelques filles d'importer ce sport à Lausanne. Quoi.
Et vous êtes beaucoup actuellement?
On est 20 membres actives, à peu près. Ouais.
Donc on disait 5 pour une équipe, vous avez des remplaçantes, comment ça se passe pour utiliser les 20 personnes?
Oui, alors en fait dans un match on peut s'inscrire à 14 maximum sur la liste du match, puis après on tourne. Parce qu'en fait ce qu'on n'a pas dit c'est qu'un match se déroule, c'est 2 mi-temps de 30 minutes, et dans chaque mi-temps c'est partagé en petite jam de 2 minutes maximum.
La jammeuse change.
Et la jammeuse elle change, elle est bloqueuse aussi, parce que c'est vraiment ces 2 minutes, c'est hyper intense, on tient pas...
Ouais, c'est épuisant j'imagine.
C'est vraiment épuisant, ouais. Ouais. C'est un sport de contact, mais c'est un sport de vitesse, d'agilité, d'endurance.
Vous disiez qu'il y a une Bible avec plus de 70 règles. Oui. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des arbitres?
Oui, alors les arbitres sont vraiment un élément central du roller derby, c'est-à-dire que sans arbitre, pas de derby. Mm-hmm. Pendant les matchs, on a certains et certaines qui sont sur patins, mm-hmm. et d'autres qu'on appelle plutôt les non-skating officials, donc c'est aussi des gens qui aident à gérer le jeu, mais eux, ils n'ont pas de patins. Et donc vraiment, les arbitres ont un test encore... En fait, pour jouer au derby, il faut réussir un test des règles, et les arbitres ont un test encore plus compliqué. Ils doivent maîtriser toutes les règles sur le bout des doigts. Et en fait, en tout cas à Lausanne, les arbitres sont les bienvenus, donc on en cherche.
Vous recrutez aussi.
On recrute aussi des arbitres.
Et puis, on va en parler dans un instant, encore des compétitions qui arrivent. Est-ce qu'au niveau suisse, voire peut-être européen, voire mondial, vous organisez des tournois?
Oui, alors en Suisse, on a une équipe Team Switzerland, il y a bientôt d'ailleurs les sélections en avril. Il n'y a pas de championnat suisse encore, mais c'est en prévision, c'est en train de se construire. En France, il y a eu le premier championnat qui est en cours maintenant.
Vous avez participé?
Non. C'est vraiment en France.
C'était pour les équipes françaises. D'ailleurs, ouais. C'est Barry qui a gagné.
Oui, c'est Barry qui a gagné. Puis sinon, aux États-Unis, puis il y a un World
Tour.
Voilà, mondial en fait, une sélection mondiale.
Alors, on en parlait tout à l'heure, hein, vous recrutez, cette semaine vous organisez justement 2 soirées, la première s'est déroulée hier soir et la prochaine c'est jeudi soir, le 24 mars à 20h au collège de l'Élysée. Comment s'est passée cette première soirée de lundi? Est-ce qu'il y avait du monde?
C'était génial.
Ouais, c'était vraiment super.
Vous avez joué?
Oui, alors on a donc les Fresh Meat, donc la viande fraîche comme on les appelle, donc sont venues. D'abord, elles ont un peu testé les patins. Ensuite, elles ont eu l'occasion d'observer comment nous, donc on faisait nos scrimmages. Uh-huh. Donc un scrimmage, c'est un petit match en fait. Donc on leur a fait une petite démonstration. Et en fait, elles ont eu l'occasion de jouer donc sans patins. Pour ça, en fait, on peut commencer sans patins juste pour un peu avoir le feeling, voir comment ça se passe, ce qu'on a le droit de faire. Et puis, par contre, les patins, on les met tout de suite aux entraînements. Donc,
Il faut savoir patiner avant de venir ou pas vous apprenez ?
On apprend tout. On apprend tout. Et surtout, tout le monde est capable d'apprendre à n'importe quel âge, avec n'importe quelle condition physique, n'importe quelle physique,
et bon,
n'importe
quel background. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on s'entraîne, on devient un athlète après avec de l'endurance et tout ?
Oui, parce qu'en fait, on peut apprendre à patiner, on n'est pas obligé d'avoir de technique. Et puis, donc, il y a 2 entraînements par semaine. Mm-hmm. Et en fait, je dirais que on commence petit à petit, on se dit, on va commencer un sport, et plus on en fait, plus on en veut. Et après, on a envie de faire ça tous les jours, de tout le temps patiner, d'essayer de faire le maximum. Puis du coup, c'est tellement fatigant, en fait, c'est un sport qui est vraiment tellement physique que. On se rend compte qu'il faut de plus en plus s'entraîner. Et
on a envie surtout. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un sport qui requiert vraiment différentes qualités. C'est-à-dire qu'on peut être très endurante, un peu moins costaud, ça va très bien. On peut être très costaud, un peu moins rapide, c'est super. S'il faut avoir une très bonne visibilité du jeu, être très réactif, très vif, et ça aussi, c'est super important. Donc vraiment, il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas de normes.
Donc on le rappelle, ce recrutement est ouvert absolument à toutes.
Oui.
Et tout le monde. Et pourquoi et uniquement aux femmes ? J'aimerais bien qu'on revienne quand même une petite seconde là-dessus. Sur cette... Donc c'est vraiment un sport destiné aux femmes, créé par les femmes pour les femmes, jamais d'hommes ?
Alors non. Il y a des équipes masculines qui sont plus ou moins importantes dans notamment les pays nordiques et les pays anglo-saxons. À Lausanne, en l'occurrence, on n'est que des filles, mais les garçons sont évidemment les bienvenus. À Nyon, je crois qu'il y en a même un qui fait partie de l'équipe. C'est évidemment un sport qui s'est créé donc, dans l'esprit pour les femmes, par les femmes, mais évidemment qu'on n'exclut personne. Ils peuvent évidemment venir faire des arbitres. Je vois Anna qui
s'écoule à terre.
Disons que l'équipe, elle est non mixte. Disons l'équipe, les joueuses...
La nôtre.
La nôtre, voilà, notre équipe à Lausanne, elle est pour, c'est les femmes en fait, qui jouent. On accepte les hommes pour le coaching, les arbitres. Et puis, s'il y a des hommes qui aimeraient créer une équipe de roller derby à Lausanne, on a des infrastructures qui commencent à être en place. Donc, on aide et puis on collabore, c'est sûr.
Mais du coup, derrière ça, il y a une vraie philosophie aussi. Il y a aussi un combat féministe. Est-ce qu'on peut le dire ou bien...
Oui.
Oui, nous, on dit oui. Alors, évidemment que chaque joueuse a son avis. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très puissant dans la mesure où c'est des filles qui se retrouvent. Il n'y a pas de jugement. Chacune peut être là, peut montrer ce dont elle est capable, peut donner aussi son opinion, parce qu'on est une association qui est vraiment basée sur le dialogue, la coopération.
L'horizontalité.
L'horizontalité, exactement. Et puis, on peut être comme on est et faire ce qu'on a envie de faire au moment où on a envie de le faire.
C'est aussi pour ça que vous laissez votre nom investir et vous prenez le nom de votre alter ego. Quels sont vos noms à vous ?
Alors, moi, c'est Blizzard.
Et moi, c'est Clitorious Bastard.
Et puis, vous vous déguisez aussi, sauf erreur, sur le terrain ?
Oui, on peut.
On peut. C'est pas obligatoire.
Non, c'est pas obligatoire. Certaines le font, d'autres le font pas. C'est chacune qui choisit d'être comme elle a envie d'être. Si elle veut mettre des paillettes, du noir, s'habiller en bleu, en vert.
Donc, c'est vraiment sois toi-même, viens jouer, t'amuser. D'accord. Pour finir, est-ce que vous pouvez nous donner quelques infos si vous avez des prochains événements, outre le recrutement dans le courant de l'année 2016, des projets ?
Alors, on a un gros projet, c'est qu'on a notre premier match qui aura lieu le 1er mai contre Nyon. Et il aura lieu vers un peu après Nyon, entre Lyon et Genève, à Crassier, je crois.
Oui, à Crassier.
À Crassier. Donc, si jamais, il y a notre page Facebook, vous pouvez aller la voir pour plus d'informations. Et sinon, on participe notamment au Cévelin Urban Festival, où l'année passée, on était présente, on a fait une petite démo. On va être aussi à La Fièvre, où on aura simplement un stand, il n'y aura pas de démonstration pour les 20 ans du skatepark, qui d'ailleurs nous soutient toujours en nous prêtant du matériel pour les nouvelles. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je crois que c'est ça,
Toutes les informations sont à retrouver sur votre page Facebook, notamment. Merci beaucoup, Blizzard et Clitorious Bastard, d'être venu nous parler de cette activité qui prend de plus en plus d'ampleur. On l'a constaté ce soir. On vous laisse peut-être une petite seconde pour nous dire, pour motiver nos auditeurs à venir jeudi à cette soirée de recrutement.
Donnez-nous envie.
En tout cas, on vous encourage à venir voir. Même si vous n'avez pas envie de faire, venez voir, ça vaut vraiment le coup, c'est un vrai show, il y a une super bonne ambiance.
Oui,
et
on est vraiment
réjouis de n'importe qui vient, qui est curieux, qui a envie de faire un truc, que ce soit un logo, nous coudre un maillot, venez juste nous encourager et on est super contents.
L'appel est lancé donc pour le 24 mars à 20h au collège de l'Élysée à Lausanne. Merci beaucoup.
Merci. Merci. By night we work and pray for peace to reign. Day by day, by night we work and pray for peace to reign. Day by day, by night we work and pray for peace to reign. Because the suffering's too much, wars. The people are confused about their future. So we turn to God. Conditions just they worse. Go look at Jegunle. The matter make we not talk. See as our papa them they suffer for. Osho the bus stop. Mama no get any money to chop. Day by day, by night we work and pray for peace to reign. Day, by night we work and pray for peace to reign. Day, by night we work and pray for peace to reign. Day, by night we work and pray for peace to reign. Day, by night we work and pray for peace to reign. Day, by night we work and pray for peace to reign.
Radio Django, La Rose des Vents.
Pour un autre vivre ensemble. C'est ça le collectif R et c'est ça sa force.
Bon anniversaire de retour de Saint-Laurent. Bon anniversaire et l'envie à la désobéissance.
Comme vous l'aurez compris avec cet extrait de la manifestation du 12 mars dernier à Lausanne, réunissant plus de 500 personnes contre les accords de Dublin. Ce soir, dans Presse Papier, nous revenons sur cette occupation depuis un an maintenant du refuge de Saint-Laurent à Lausanne. Nous en parlons avec Yves, bonsoir.
Bonsoir, Fabien.
Et nous en parlons aussi avec notre invité Pierre Conscience, bonsoir.
Bonsoir.
Et tu es du collectif R.
Tout à fait.
Donc il y a un an, le 8 mars 2015, commençait l'occupation de l'église de Saint-Laurent en plein centre-ville de Lausanne. La salle de paroisse, non sans quelques passes d'armes avec la hiérarchie de l'église protestante, devenait un lieu de protection pour 6 migrants menacés de renvoi. Il s'agissait de Michele, Amar, Mohamed, Mikili, Abraham, qui ont fui la guerre et la dictature en Érythrée, et une opposante au régime éthiopien qui a réussi à quitter son pays après un séjour en prison. Ils et elles ont fait un long et périlleux voyage, mais n'ont pas eu le droit de déposer leur demande d'asile en Suisse à cause des accords Dublin sur lesquels nous allons revenir. La paroisse de Saint-Laurent devenait aussi l'épicentre d'une contestation sociale contre ces accords de Dublin et leur application en Suisse. Ce soir, nous faisons le point sur cette année de lutte, de résistance et de désobéissance.
Pierre Conscience, vous êtes membre du collectif R. Pouvez-vous nous rappeler les raisons qui ont conduit à cette occupation et que sont ces fameux accords de Dublin ?
Si vous voulez, au début du mois de mars de l'année 2015, l'association, le collectif Droit de Rester, faisait face à, à une vraie crise dans les permanences qu'ils organisent chaque semaine depuis maintenant de nombreuses années pour venir en aide aux requérants d'asile qui cherchent à obtenir un permis de séjour en Suisse. Une vraie crise parce qu'il y avait de plus en plus de personnes qui étaient menacées de renvoi dans le cadre des accords de Dublin. Alors on peut y revenir, mais c'est cette recrudescence de personnes menacées de renvoi à cause de ces accords qui ont fait que le collectif Droit de Rester a sollicité l'aide de plusieurs citoyens et citoyennes solidaires, personnes engagées dans d'autres associations, mais aussi des personnes qui n'étaient pas engagées, pour ouvrir ce refuge qui maintenant, depuis un an, permet d'empêcher le renvoi, qui a permis d'empêcher le renvoi d'une quarantaine de personnes.
Peut-être juste, donc ces accords de Dublin, si on peut préciser ce que c'est, pourquoi une personne ne peut pas déposer l'asile en Suisse à cause de ces accords de Dublin ?
Si vous voulez, les accords de Dublin, en quelque sorte, c'est un deal qu'ont fait les États européens, ainsi que la Suisse et quelques autres pays limitrophes à l'Union européenne, comme mode de répartition des migrants en Europe. Et au fond, cet accord demande à chaque pays membre de renvoyer tout requérant d'asile dans le premier pays par lequel il a transité dans l'espace de cet accord, c'est-à-dire en Europe. Du coup, la conséquence est évidente, c'est que dans un cadre de crise migratoire aussi grave que celui qu'on vit aujourd'hui, eh bien, il y a des centaines de milliers de migrants qui se retrouvent coincés dans des pays comme l'Italie, la Grèce, la Hongrie ou la Bulgarie, où les conditions d'accueil prennent de plus en plus le contour d'une vraie crise humanitaire. Je tiens juste à rappeler rapidement que en Italie, il y a trois réfugiés sur quatre qui vivent dans la rue. En Hongrie, des nouvelles lois sécuritaires font que des migrants se font tabasser dans le cadre d'interrogatoires parce qu'ils seraient supposés participer à des activités terroristes ou pour d'autres raisons encore moins valables. Donc vraiment, c'est des pays dans lesquels les conditions d'accueil sont extrêmement néfastes pour ces personnes. Et c'est pour ça que la Suisse profite de ces accords, et c'est ce que nous contestons.
Mais est-ce qu'au départ, l'idée, c'était d'obtenir un examen pour ces six personnes qui n'avaient pas pu demander l'asile en Suisse, ou est-ce qu'il s'agit d'un objectif plus politique, plus général, supprimer les accords Dublin ou les...
Alors bien sûr, le refuge s'est ouvert pas seulement pour ces six personnes. Ces six personnes n'étaient et ne sont encore que le point d'orgue d'une situation beaucoup plus dramatique. Des personnes menacées de renvoi dans le cadre des accords de Dublin existent aujourd'hui par centaines dans le canton de Vaud et par dizaines de milliers à l'échelle fédérale.
Mais ça veut dire que le refuge, il pourrait durer alors 10-15 ans, jusqu'à, tant qu'il y aura des Dublin, il y aura le refuge à Saint-Laurent ?
Alors tant qu'il y aura les accords Dublin, le collectif R se battra, que ce soit par le refuge à Saint-Laurent, que ce soit par un autre refuge, ou d'autres modes d'action. Nous n'avons pas seulement un refuge, nous avons mobilisé à plusieurs reprises des milliers de personnes dans la rue. La société civile se mobilise avec nous, plus de 170 personnalités, artistes, professeurs d'université, politiques de tous bords confondus, s'engagent avec nous pour contester ces accords de Dublin.
C'est des parrainages, ça, c'est ça.
Alors non, il y a une lettre ouverte qui avait été signée en avril par 170 personnes et qui avait été publiée dans le temps. Mais on a aussi en effet tout un réseau de personnalités qui se nomment parrain ou marraine pour protéger des migrants et s'engagent avec elles. C'est le cas par exemple de David Payot, le nouveau municipal popiste de Lausanne, qui s'est engagé pour défendre un migrant qui s'est retrouvé assigné à résidence il y a quelques jours et pourrait avoir été renvoyé aujourd'hui. Un exemple tout frais d'une de ces situations tout à fait scandaleuses que mène le Conseil d'État.
Comment s'est organisée la vie dans la paroisse au jour le jour ? Donc ça fait un an que vous êtes là, donc il faut organiser des repas, des permanences, je crois que vous organisez peut-être aussi des cours, il faut des personnes qui sont là aussi la nuit. Comment ça se passe au quotidien ?
Alors bien sûr, en effet, on le disait tout à l'heure, le refuge est à la fois un outil politique pour contester les accords de Dublin, mais c'est aussi évidemment un lieu d'intégration, de partage avec les personnes qui y vivent, avec ces personnes menacées de renvoi. D'ailleurs, certaines des personnes que vous évoquiez au début ont pu sursoir à leur renvoi et donc maintenant sont sorties de refuge, d'autres sont venues. Et avec ces 8 personnes, en effet, ça nécessite tous les jours des dizaines de militants, de citoyens et de citoyennes solidaires qui donnent des cours de français, aident à l'entretien des lieux, à la vie collective, participent à des activités, à des sorties aussi, parce que c'est aussi ce que ça permet, c'est de pouvoir les protéger lors de sorties, car tout seul, ils seraient beaucoup plus exposés à d'éventuelles arrestations. Donc voilà, c'est tout un travail qui nécessite un grand effort, mais le fait, en fait, qu'on arrive à tenir ce refuge témoigne de la popularité de nos revendications et de la mesure dans laquelle on a vraiment réussi à élargir les soutiens contre ces accords de Dublin.
Et les personnes migrantes elles-mêmes, quelle est leur place dans le mouvement, dans l'organisation du quotidien et puis peut-être dans la stratégie de la lutte elle-même ?
Alors, ils y ont toute leur place. Hein. Nous avons des assemblées, d'ailleurs, ouvertes à toutes et tous, tous les jeudis à 19h. Toutes les personnes qui nous écoutent sont évidemment les bienvenues si elles veulent agir avec nous. Les habitants du refuge, comme toute autre personne, participent aux décisions de ce collectif. Évidemment, ce sont aussi des personnes qui sont fortement frappées par leur parcours migratoire, par leur situation. Il y a pour certaines d'entre elles la barrière de la langue qui font que c'est toujours un peu plus difficile pour elles que pour un citoyen lambda de participer aux décisions et aux orientations stratégiques ou tactiques du mouvement. Mais c'est un de nos efforts principaux que de tout faire pour qu'ils soient partie prenante de cette lutte.
Donc vous appelez le collectif R, dans le fond, quand est né ce mouvement? Est-ce qu'il est né avec le refuge, avant, après, et ça veut dire quoi R?
Il est né le 8 mars 2015 avec l'ouverture du refuge dans la paroisse de Saint-Laurent. R peut vouloir dire beaucoup de choses, peut vouloir dire refuge, peut vouloir dire réfugié, peut vouloir dire résistance, peut vouloir dire refus de se laisser faire. Bien évidemment, c'était le mot refuge qui a donné naissance à ça, mais je crois que alors il y a vraiment mille noms qu'on pourrait apposer à cette lettre dans ce contexte.
Le collectif R, donc, c'est aussi un site web, www.désobéissant.ch, c'est aussi Facebook, Refuge Saint-Laurent. Donc, vous êtes très actif, beaucoup de posts avec des photos, des vidéos qui sont vraiment très bien faites, des affiches, des tracks qui sont assez soignés au niveau visuel. Est-ce que vous avez des graphistes qui vous ont rejoint, Pierre Conscience?
Mais tout à fait, et puis justement c'est encore un autre témoignage du fait qu'on est vraiment un mouvement riche dans sa composition, c'est que c'est pas du tout le petit cercle habituel de défenseurs et de défenseuses du droit d'asile en place lausannoise. Ça s'est vraiment élargi et c'est aussi du coup vraiment une force, à la fois une force numéraire mais aussi qualitative, c'est-à-dire que des gens viennent avec leurs compétences et on peut tous se rendre utile pour le collectif R et pour soutenir ces personnes menacées de renvoi à cause des accords de Dublin. Des personnes viennent avec leurs compétences graphiques, d'autres viennent et sont des champions de la communication sur les réseaux sociaux, d'autres sont très forts pour organiser des choses, les professeurs de français, enfin bref, on peut de toute façon se rendre utile et toutes et tous sont évidemment les bienvenus pour rejoindre ce combat.
Donc un des grands moments de votre mouvement, c'était, je crois, le 12 mai, où le Grand Conseil vaudois à majorité de droite vous a soutenu dans une résolution qui demandait la suspension des renvois vers l'Italie, qui était donc une de vos revendications, et qui enjoignait le Conseil d'État à demander à la Confédération d'activer la clause de souveraineté, qui permet donc à la Suisse d'ouvrir elle-même les dossiers de requérants. Qu'est-ce que ça débouchait sur quoi, cette ouverture?
Eh bien, malheureusement, le Conseil d'État visiblement prend son Parlement, qui serait censé être son autorité suprême, pour un vrai paillasson, parce qu'il refuse catégoriquement d'appliquer ne serait-ce qu'une virgule de cette résolution qui a été votée le 12 mai dernier que vous évoquiez. C'est parfaitement scandaleux. Monsieur Lebas se prétend à chaque fois appliquer strictement la loi. Eh bien, je considère que la loi, c'est aussi les résolutions qui sont votées par le Grand Conseil, qui demandait la suspension, comme vous le disiez, des renvois vers l'Italie. Or, justement, hier encore, une personne Dublin a été renvoyée vers l'Italie, où il n'y a vraiment plus du tout de capacité d'accueil. Je rappelle juste aussi que la Suisse a déjà accueilli plus du double de réfugiés qu'elle n'en a accueilli en 2015. Il y a donc un vrai potentiel. Et les autorités communales et cantonales ne peuvent certes pas changer toute la politique d'asile de la Suisse, c'est pas de leur ressort, mais elles peuvent faire des choses à leur manière. Et le rôle humanitaire du canton de Vaud, ce serait d'effectuer les renvois dans le cadre des accords de Dublin aujourd'hui.
Donc le Conseil d'État, vous les fustigez pour son inaction. Néanmoins, il vous a proposé de déposer des demandes de réexamen au secrétariat d'État des migrants. Je crois que 40 dossiers ont été transmis à Berne. 37 personnes ont pu échapper à un renvoi. Donc il y a quand même quelque chose qui s'est fait.
Oui, non, vous faites un faux parallèle. Ces demandes de réexamen mènent toujours pas à un refus. Donc c'est vraiment un jeu de dupes. C'est nous faire des dépenses et de gaspiller notre énergie dans des démarches juridiques qui ne peuvent pas gagner.
Donc pour le moment, personne n'a été régularisé dans le mouvement.
Si, les personnes ont été régularisées, mais par le fait qu'en fait, dans cette mécanique automatique des accords de Dublin, il y a une faille, et c'est celle que nous exploitons. En fait, les accords de Dublin ne peuvent s'appliquer que dans un délai de 6 à 18 mois.
J'allais le dire, toutes ces procédures prennent beaucoup de temps.
Toutes ces procédures prennent beaucoup de temps, mais à la fois, c'est tout l'aspect complètement artificiel et relatif au fond de ces accords. C'est que si la personne arrive à gagner au jeu de cache-cache avec les autorités cantonales et fédérales pendant 6 ou 18 mois, eh bien, alors, elles peuvent sursoir au renvoi à Dublin et déposer une demande d'asile ordinaire dans un contexte d'une loi d'asile qui est déjà très oppressive. Et c'est comme ça qu'on a réussi à obtenir 40 régularisations. Ce sont 40 personnes qu'on a soit protégées par le refuge, soit protégées par notre réseau de parrains et marraines pour dépasser ce délai et pouvoir ensuite déposer une demande d'asile.
Alors peut-être juste une dernière question pour aller peut-être au-delà de la Suisse. Les dirigeants européens ont donné leur feu vert vendredi dernier 18 mars à un accord avec la Turquie censé tarir le flux de réfugiés vers l'Europe. Donc après la fermeture de la route des Balkans, la route grecque est censée être une impasse et tous les nouveaux migrants arrivant en Grèce sont renvoyés automatiquement en Turquie. Les autorités, notamment les conseillers d'État, les conseillers fédéraux, pardon, UDC, ont agité l'idée de mettre l'armée aux frontières. Pierre Conscience, quelle analyse faites-vous de cette situation européenne de crise ?
Bah, c'est vraiment dramatique, je crois, là où on en arrive, avec des deals financiers. Je te donne quelques milliards, en échange, tu reprends quelques dizaines de milliers de personnes qui fuient la guerre, la misère. Ça donne vraiment envie de gerber, je crois. Je parle même pas de la proposition de l'UDC, qui est de toute façon un épouvantail qui s'élève. Il y aura jamais d'armée aux frontières dans la situation actuelle. C'est du n'importe quoi. Néanmoins, je pense que ces mesures témoignent d'une chose, c'est que si ça va pas du tout dans la bonne direction, ça montre bien au moins que ces accords de Dublin sont caducs. Mais il y a au fond une course de vitesse maintenant. Les accords de Dublin vont sauter tôt ou tard parce qu'ils ne répondent pas à la crise migratoire actuelle. La question est de savoir si, en sautant, ça va permettre aux forces réactionnaires et nationalistes de pouvoir faire s'ériger de plus en plus de murs en Europe, ou si notre message, un message humaniste, un message d'accueil, réussit à faire le dessus. Et pour ça, il faut que la population se mobilise, arrête d'être simplement solidaire en parole, mais agisse avec nous.
Bon, ben, il y a encore du boulot pour les prochaines années. Ouais. On vous recevra, j'espère, dans une année pour le bilan de la deuxième année. Merci beaucoup, Pierre Conscience, du collectif R. Et merci à Yves pour ce presse-papier. Un presse-papier qu'on peut également appeler un peu le bilan de cette première année du collectif R. Le presse-papier de la revue de presse des migrants sur Radio Django est à retrouver sur www.django.fm.
Radio Django, la rose des vents.
La migration, il y en a encore question, et on parlait à l'instant de la migration avec le collectif R et de la Syrie en particulier, et puis on continue à parler de la Syrie avec les étudiants syriens en Suisse. La guerre les a poussés à l'exil, mais n'a pas su anéantir leurs ambitions, et finalement, ils essaient de se frayer un nouveau chemin pour poursuivre leurs rêves ailleurs. Ces étudiants venus de Syrie trouvent finalement la paix et la sécurité Suisse et se remettent à espérer un jour pouvoir se former dans les branches qui les passionnent. Ce soir, ce sera avec toi, Rama. Bonsoir.
Bonsoir, Fabien.
Tu as donc choisi d'inviter deux étudiants syriens pour nous présenter les joies, les peines et les espoirs qu'ils nourrissent en Suisse et leur nouvelle vie d'étudiant.
Oui, Fabien, on peut remarquer que malgré toutes les conditions difficiles auxquelles ils font face très souvent pendant leur voyage, la plupart des gens syriens parviennent à bien s'intégrer dans leur nouvelle société d'accueil et ont parfois la chance de bénéficier d'aides d'organismes suisses.
Alors, Rama, qui sont ces étudiants que tu as invités ce soir sur le plateau de Radio Django?
Alors, aujourd'hui, Fabien, nous accueillons Shadi et Ali. Bonsoir, Shadi et Ali.
Bonsoir.
Bonsoir.
Ali, vous êtes un étudiant à la HOS, à la Haute École spécialisée. Oui, vous avez 28 ans et vous êtes en Suisse depuis 2013.
Oui, c'est ça.
Oui, et vous, Shadi, vous avez 19 ans. Et ouais. Vous êtes étudiant à la faculté de médecine à l'université de Lausanne. Exactement. Et vous êtes en Suisse depuis 4 ans. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Alors, j'aimerais bien commencer avec Ali, parce que vous avez déjà fini vos études en Syrie. Alors, que faisiez-vous comme études dans votre pays avant de commencer vos études ici en Suisse?
Oui, en Syrie, j'ai obtenu un bachelor en informatique à Damas, à l'université de Damas.
Ouais.
Oui, en Syrie, le bachelor prend 5 ans des études.
Ok.
Oui, j'ai pris mon diplôme et je suis venu tout de suite en Suisse.
C'est bien. Et vous, Shadi, vous avez déjà commencé, vous étiez déjà étudié à gymnase ici en Suisse. Alors, j'aimerais bien savoir quelles sont les différences entre le système d'études ici en Suisse et en Syrie.
Exactement. Moi, j'étais à l'école en Syrie, j'ai fini la brevet et je suis venu en Suisse et j'ai commencé le gymnase ici. Pour moi, j'ai trouvé qu'il y a des différences entre le système ici en Suisse et en Syrie. En Syrie, on était plus par cœur, on était plus basé sur un livre, c'était par cœur. Ici en Suisse, ce que je trouvais intéressant, il y avait du pratique. Il avait les TP, les travaux pratiques en physique, en biologie, en chimie. On apprenait la théorie, après on faisait ce qu'on a appris. C'est ça, qu'est-ce que je trouvais intéressant ici en Suisse.
Et pour vous, Ali, qu'est-ce que vous avez trouvé comme différence?
Je trouve au niveau des cours, les informations que j'ai prises dans mes cours en bachelor en Syrie, c'est exactement la même information donnée dans des cours au bachelor en Suisse. Mm-hmm. En tout le cas, pour l'informatique, je ne sais pas pour les autres. Pour les autres branches, mais pour l'informatique, c'est la même formation. Oh. L'ordinateur, c'est le même en Syrie et en Suisse.
En Suisse, c'est la même chose. Et oui. Alors, j'aimerais bien savoir si vous êtes contente avec vos études ici et pourquoi. Sinon, si oui, pourquoi?
Oui, bien sûr, je suis content parce que c'est la suite logique de mes études que j'avais fait en Syrie. Et en plus, je suis passionné en informatique.
Mm-hmm. Et pour vous, Shadi?
Bon, moi, je suis encore en première année de médecine. On est vraiment dans les bases en médecine, on n'a pas vraiment commencé, mais je suis toujours motivé, je suis vraiment content, ce que j'apprends c'est vraiment intéressant, les cours et tout, et oui, je suis vraiment content avec mon choix.
C'est bien. Financièrement, j'aimerais bien savoir quels sont les organes qui vous soutiennent dans vos études ici en Suisse, pour vous, Ali?
Depuis mon arrivée en Suisse, je suis pris en charge par l'EVAM.
L'EVAM, c'est l'établissement vaudoise d'accueil les migrants.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est l'EVAM qui paye pour tout, pour toute ma vie, pas seulement pour les études.
OK. Et pour vous, Shadi, aussi?
Moi, c'est comme Ali, c'est l'EVAM qui paye pour tous les frais des études, le transport et toute la vie comme Ali.
Depuis que vous arrivez ici, j'aimerais bien savoir quelles sont les difficultés que vous rencontrez ici en Suisse par rapport, pour vous, Ali, la reconnaissance de vos diplômes que vous avez déjà commencé, vous avez déjà obtenu de Damas.
Oui, en fait, la diplôme n'était pas tout de suite reconnu. J'étais obligé de faire des stages et de travailler chez l'EVAM comme programme d'occupation. J'ai fait ça pendant une année.
Oui.
Ce sont les raisons pour lesquelles mon diplôme a été accepté ou
reconnu. Oui. Et pour vous, Shadi, il n'y a pas de diplôme. Alors, on va Pour le niveau de la langue française, pour vous, Shadi, qu'est-ce que vous avez comme difficulté?
Pour moi, les difficultés, oui, c'était la langue. C'est commencer à apprendre le français. J'avais un base, mais pas fort. Mais j'ai appris le français en Syrie, mais ce n'était pas vraiment fort. Je suis venu ici, j'ai commencé à parler, le gymnase et tout ça. Maintenant, j'améliore le niveau en français. Pour moi, la difficulté, c'était s'habituer ici en Suisse, un nouveau système, un nouveau pays, tout qui a changé. Ben, c'était différent, c'était difficile, mais bien en même temps.
Parce que tous les deux, vous avez les cours uniquement en français ici, j'imagine.
Oui, pour moi, c'est qu'en français, ouais.
Oui, c'est en français. C'est
la même chose. Et par rapport au logement ici en Suisse, pour vous aller, est-ce que vous avez des difficultés ou...
Le logement, c'est-à-dire où j'habite avec mes parents, ouais, dans l'appartement qui est pris en charge par les femmes.
Ok, et vous, Shadi?
Bon, moi, j'habite en colocation avec quelqu'un qui est à côté de l'université. J'ai trouvé ce logement grâce au site de l'université, mais c'est aussi les femmes qui payent pour le logement.
Ok. Ali, est-ce que vous avez encore des familles qui sont en Syrie?
Oui, bien sûr.
Est-ce que vous êtes préoccupé par la situation de votre famille qui sont restées là-bas en Syrie?
Oui, bien sûr. Je pense toujours à eux. J'essaie de contact toujours avec eux, mais le seul moyen de contact, c'est le Facebook. Mais ça sera difficile.
Ça sera difficile. Et pour vous, Shadi, est-ce que vous avez des familles encore?
Oui, bien sûr. On a toujours la famille là-bas. Les amis, tout le monde qu'on connaît, tout le monde qu'on aime, ils sont toujours là-bas. Et on pense toujours à eux. C'est vraiment une situation pas facile pour eux d'habiter en guerre comme ça. On essaie toujours de les contacter, de parler avec eux. Voilà.
Oui. Alors, j'aimerais bien savoir aussi les difficultés par rapport pour faire des amis ici, pour vous, Shadi, au gymnase, et pour vous, Ali, à l'université, parce que du fait que vous êtes étranger.
Alors, pour moi, au gymnase, j'avais vraiment la chance. Je suis tombé dans une classe vraiment, vraiment sympa. Les gens m'ont accueilli chaleureusement. Ils étaient généreux avec moi. Ils étaient sympas. Ils m'ont beaucoup aidé pour apprendre le français, pour comprendre le système ici en Suisse. Ils étaient vraiment... Ouais, j'ai fait des bons amis ici en Suisse. Et je suis toujours en contact avec eux après le gymnase.
C'est bien. Et pour vous, Ali?
Pour moi, c'est bien. Ça va. Parce que je trouve que les Suisses sont travailleuses. Elles aiment le travail. Mais mes relations avec eux, c'est limité à l'école pour faire du travail, travail pratique.
Pour travailler en groupe, ça
en
veut
groupe,
dire.
Oui.
Ok. Et est-ce que vos amis ou vos profs vous aident et sont compréhensifs par rapport à votre situation?
Oui, bien sûr, parce que dans tous mes cours, il y a du travail pratique, du TP. On fait ça par groupe.
Ok.
C'est-à-dire, mes amis m'aidaient à comprendre le TP et à écrire le rapport, parce qu'il est en français, c'est pas facile.
Oui. Et votre prof aussi?
Oui, j'ai un prof, par exemple, qui reste avec moi une heure après le cours pour bien expliquer les choses. Oui, parce qu'elle connaît bien moi. Je ne connais pas bien la langue française.
Oui. Et pour vous, Shadi?
Moi aussi, c'est la même chose. Comme je disais avant, mes amis m'ont beaucoup aidé. Et aussi mes profs, ce n'était pas juste pour les cours, pour ma situation aussi. Ils me demandaient ma vie, comment va ma famille. Pas juste intéressé par le cours, aussi par ma vie. J'ai trouvé que c'était vraiment sympa. Et c'est grâce à eux que je suis là maintenant, que je réussis mon gymnase.
Ok. Après obtenir le diplôme d'ici, quels sont vos projets pour l'avenir? Pour vous, Ali?
En espérant que je pourrai trouver un travail rapidement après le master.
Ok.
Mais ça sera difficile avec le permis F.
Ok. Et pour vous, Shadi?
Bon, moi, je suis en première année de médecine. Ça va être des études longues et dures. J'aimerais bien le finir. J'aimerais bien être un médecin après et trouver un travail ici en Suisse ou ailleurs.
Si la situation s'améliore en Syrie, vous pensez pouvoir retourner malgré vos études en français?
J'aimerais bien, si j'ai commencé ici l'université, j'aimerais bien finir. J'ai eu le...
Oui, mais après les diplômes.
Après les diplômes, oui, bien sûr, j'aimerais bien rentrer en Syrie ou pour aider là-bas, pour reconstruire notre pays.
En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Un grand merci. Ali et Sadi d'avoir partagé votre parcours et vos expériences d'étudiants syriens ici en Suisse. On vous souhaite tout le meilleur pour la suite et plein de succès pour vos études. Et bien entendu également un grand merci à Rama pour la préparation
Fabien,
de ce
sujet.
Merci Fabien
pour vous aussi.
On rappelle que Rama, vous êtes rédactrice au site d'information Voix d'Exil, www.voixdexil.com, hein, si je ne me trompe pas. Et puis cette chronique est à retrouver à partir de demain sur notre site également, sur le vôtre, www.django.fm. Merci.
Radio Django, culture.
Nous recevons dans quelques instants Albert de Gruffy pour parler de la musique et de son nouvel album qu'il a, comment est-ce qu'on dit, inauguré, baptisé. Voilà, il en a parlé il y a quelques temps. On va en parler dans quelques instants, mais tout de suite, on écoute un extrait de cet album.
Devenir un homme idéal, avec maison et bon travail. Acheter la plus belle auto, écraser les autres s'il le faut. Petit, si tu veux devenir grand, faut suivre la route de tes parents. Je suis à bout, je peux plus respirer. J'ai tout plaqué et je suis allé voir le monde, voir le monde, voir le monde, voir le monde. Je dis oui à la vie, cette amie que j'avais laissée se faner comme une des chaussettes oubliées. Et vu que c'est pour la vie, mes amis, je veux bien vous la partager. Aujourd'hui je veux m'envoler. Faut pas m'en vouloir si je suis parti. Vos beaux projets et vos folles envies avaient pris la place de mon cœur. J'avais besoin de renaître ailleurs. Voir le monde, voir le monde, voir le monde, voir le monde. Je dis oui à la vie, cette amie que j'avais laissée se faner comme une vieille chaussette.
Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir un artiste roman qu'on vient d'entendre ici dans cet extrait, Voir le monde. Bonsoir Albert de Gruffy.
Bonsoir.
Bienvenue sur les ondes de Radio Django.
Merci bien.
Alors, vous nous le disiez en préparant cette émission, vous avez été baigné quand vous étiez petit dans les musiques de Brassens, de Brel ou de Renaud. Vous avez une famille qui est peut-être un petit peu dans la musique ?
Alors bon, j'ai toujours eu les disques de mes parents qui tournaient, donc... Bon, peut-être pas Renaud pour mes parents, mais en tout cas Brel, Brassens, tous les chanteurs de cette époque-là qui m'inspirent toujours et qui, à mon avis, sont les meilleurs chanteurs. Ce qui s'est fait de mieux dans la chanson française. J'ai pas trouvé mieux depuis là, donc il y a de quoi s'inspirer en tout cas. Et avec mon frère, on a toujours fait de la musique ensemble. Donc c'est clair que c'est, quand on baigne là-dedans, on est obligé de porter ça plus tard.
Alors, on reviendra justement sur les relations que vous avez avec votre frère tout à l'heure, mais vous avez un parcours de vie qui est un petit peu compliqué. Vous avez, autour des années 2000, vous avez eu les premières envies musicales. Expliquez-nous votre parcours à cette période-là.
Bon, le parcours, moi j'ai commencé à jouer dans un groupe avec des potes un peu locaux comme ça, plus pour s'amuser. On a créé un festival qui s'appelle le Bootbrousse Festival, qui se fait toujours d'ailleurs à oui. Puydoux actuellement. Et donc on avait fait un peu ce festival pour être avec des potes, s'amuser, vraiment partager la musique, être ensemble. C'était un peu assez roots comme manière de voir les choses. Et après, du coup, vu qu'on fait un festival, on côtoie plus de musiciens, on côtoie des gens. Il y a un groupe qui me plaisait énormément, qui s'appelait Mythical Arrangement. Et ils cherchaient un musicien. Moi, je ne savais pas faire de basse. Ils cherchaient un bassiste. Mon frère avait une basse. J'ai dit, tiens, prête-moi la basse, je vais essayer. Je suis allé auditionner. Apparemment, ça a dû leur plaire, vu qu'ils m'ont choisi.
C'est un peu un don, ça.
Ouais, un coup de bol. Où les autres étaient vraiment très mauvais. Non, enfin... En tout cas, bon, j'aimais beaucoup leur musique. Je pense voilà, il y a aussi des histoires de feeling dans la musique. On sent s'il y a des gens avec qui on a envie de travailler ou pas. Mm-hmm. Et donc, avec ce groupe, on a pas mal tourné entre 2000 et 2007, par là. Mm-hmm. Et on est même allé en Angleterre. On avait fait une tournée. On a joué un peu en France, comme ça et tout. On a beaucoup tourné en Suisse. Et voilà un peu le parcours. Quoi. Après, avant que je me lance en solo à écrire mes chansons, enfin, ça faisait un moment que j'écrivais, mais ouais. J'étais pas assez satisfait pour me dire que ça tenait la route. Et puis, d'un coup, il y a un jour où les mots tombent tout seuls.
Alors voilà, puis justement, pour trouver un petit peu d'inspiration, vous avez décidé de prendre un break et partir la guitare sur l'épaule et puis à califourchon d'un vélo.
Ouais, la guitare, un bon nombre de casseroles, d'habits, il y avait tout plein de matériel sur ce vélo, quoi, parce qu'on est parti quand même presque une année.
Donc vous êtes parti depuis d'où, directement d'où vous êtes ?
Voilà, d'où j'habite, je suis parti, on est allé, en fait j'avais un ami, que j'ai toujours cet ami d'ailleurs, qui est indien, il s'est fait adopter par une famille suisse, il était allé adolescent en Inde, et il avait mal vécu ce voyage du fait que c'est un indien, mais là-bas il n'est pas accueilli comme un indien, vu que c'est quelqu'un qui, déjà il parlait pas super bien anglais, donc il avait de la peine à se faire comprendre, donc il s'est senti un peu rejeté, il a très mal vécu ce voyage, donc il voulait faire une sorte de pèlerinage un peu comme ça. Puis, enfin, un soir, il me parlait de ça, puis il disait ouais, il y aura plein de monde, on part à plusieurs, on va faire. Puis moi, j'étais dans une phase de ma vie où j'avais besoin de partir, et puis je lui ai dit ah, cool, écoute, moi, ça roule, je viens avec toi. Et au final, on n'était plus que les deux, parce que les gens, ils disent des choses, et puis on s'est retrouvés les deux, là, sur un peu comme des cons sur nos vélos, quoi. En grand sportif qu'on est, hein, c'est-à-dire pas du tout, quoi. Donc on est parti sans s'entraîner, quoi. Je veux dire que quand on a commencé à grimper les Alpes, on a vachement regretté le jour.
Oui, il faut préciser que vous êtes parti donc direction l'Est. Donc ouais. Les Alpes.
Donc c'était le but d'aller en Inde, quoi.
Ouais, voilà. Donc vous avez pédalé, j'imagine, quelques heures, quelques kilomètres, et puis vous êtes arrivé à la frontière de l'Inde.
Alors non, en fait, on s'est séparés à la frontière de l'Inde parce que lui, c'était un peu son rêve d'aller là-bas. Donc moi, je l'accompagnais jusqu'à l'Inde. Puis pendant le voyage, j'ai eu le temps d'avoir d'autres envies, d'autres choses. Puis c'était vraiment son projet à lui, donc je l'ai laissé finir tout seul. Et moi, j'étais très intéressé à aller voir les Himalayas, mm-hmm. où j'ai grandi à côté d'un centre tibétain. Ça m'a toujours un peu intrigué, ces choses-là. Donc je voulais aller. Je suis allé au Tibet en passant par le Pakistan, la Chine. Et après, j'ai été au Népal, j'avais une amie qui était là-bas, en Inde, un peu, bourlingué par...
Un grand périple, mais pendant votre route ensemble jusqu'à la frontière de l'Inde, vous avez rencontré de la musique ou de l'inspiration pour gratter la guitare ?
À fond. Sur le vélo, on a le temps de réfléchir, hein, ça c'est clair. Il y a par exemple, il y a une chanson qui m'a été inspiré par une souris que c'est un Serbe qui m'a donné parce que ça portait chance aux voyageurs de donner une souris blanche apparemment. Alors moi je le savais pas, alors il nous a donné une souris blanche, alors je l'ai gardée avec moi. Puis du coup pendant que je pédalais, j'avais cette souris en tête et puis ça m'a fait écrire une chanson sur une souris. Enfin c'est des fois des trucs tout cons, quoi, mais après bien sûr j'ai écrit des chansons sur le ressenti du voyage et les émotions qu'on a sur le moment, parce que c'est vrai que on est sur le vélo, on ne sait pas trop où on va dormir le soir, on ne sait pas trop si on va trouver quelque chose à manger à midi. Il y a des moments de tension. Je me suis jamais autant énervé qu'avec ce copain parce que voilà, on était dans des moments vraiment extrêmes. Et puis, du coup, c'était très bon pour l'inspiration.
On dit pour le meilleur et pour le pire. Hein,
voilà, ouais, c'était pas un mariage, mais c'était pour le meilleur et le
mais
pire.
Mais presque. Vous disiez l'inspiration, justement, l'inspiration d'un voyage, j'imagine qu'elle est conséquente. En plus, à vélo, avec l'effort physique, on est tout le temps avec quelqu'un, on rencontre beaucoup de pays,
aussi, ouais,
voilà, on rencontre du monde. Comment est-ce que vous avez fonctionné après ? Vous avez pris des notes dans un carnet de bord, dans un petit calepin, et l'inspiration est venue finalement après avec les souvenirs ou c'est sur le moment ?
Alors bon, j'ai toujours mon cahier, donc j'avais déjà des chansons d'avant que j'ai profité de finaliser, des fois il manque juste un mot qu'on trouve pas, puis il suffit d'un coup, voilà, qu'on ait l'esprit clair, puis le mot vient, puis j'écrivais toujours dedans, et il y a des chansons que quand je suis rentré, j'ai aussi réécrit des chansons sur le voyage, donc aussi après, pendant, enfin c'est un peu mon grimoire de mots, quoi, qui sont, j'espère, bien trouvés, quoi.
Et puis alors, à votre retour, vous avez décidé de mettre tout ça sur une galette, je ne sais pas si on peut toujours dire ça, en tout cas de l'enregistrer.
Oui.
Ce qui a donné un album.
C'était un grand pas à faire, mais c'est une bonne chose. Maintenant, je suis très content de pouvoir le défendre. Là, j'ai des concerts qui arrivent pour justement aller le promouvoir. Et puis surtout le partager, puis passer du bon temps avec le public, s'amuser nous sur scène pour le jouer prendre le pied avec la musique, quoi. C'est le but, quoi.
On le sait peut-être, votre album, vous l'avez verni au mois d'octobre dernier, oui. Octobre 2015.
Je ne suis pas très rapide, hein. Y a des gens qui sont hyper organisés, rapides, tout ça. Moi, je prends le temps, quoi.
Il faut le sentir et l'apprécier. Ouais. Du coup, vous avez une tournée qui est prévue pour les prochains mois à venir.
Oui, alors j'ai un concert le 30 avril au Bout du Monde à Vevey, j'ai le 13 mai à la Bille, à la Sarra, le 26 juin au Festival local de Vevey. Et aussi au festival United for Peace aux Abbayes, à la Vallée de Joux. Mm-hmm. Et ça, c'est au mois de juin, mais je ne vais pas dire de bêtises sur la date, je ne suis pas sûr. Alors, vous pouvez aller sur mon site mx3/albert, je mets les dates.
Voilà, et on vous dit une bêtise. On vous met ça également sur notre page django.fm. Donc, des autres projets en dehors de la tournée, des spectacles, Albert de Gruffy?
Moi, j'ai une famille, hein, donc ça prend beaucoup de temps. Hein, elle me prend beaucoup de temps, donc et c'est du bon temps à apprendre aussi, surtout. Donc autrement, je réécris des chansons pour faire un second album. Donc toujours en train d'écrire, d'essayer de faire, de trouver des bons riffs, des bonnes paroles, des bonnes histoires à raconter, quoi.
Voilà, donc je crois qu'on a fait gentiment le tour de ces quelques pistes, de ces quelques histoires de votre vie, et puis vous dire encore que vous nous avez gentiment apporté quelques exemplaires de votre dernier album, donc tout au long du voyage, qu'on vous offrira par le biais de Facebook. Donc on vous publiera cette interview avec la possibilité de gagner quelques-uns de ces albums. Merci beaucoup Albert de Gruffy d'être passé par les studios de Radio Django.
Merci à vous, c'est très sympa.
Et puis plein de succès pour votre prochaine tournée, pour vos prochaines tournées, et puis plein de toute la suite de votre carrière musicale.
Merci beaucoup, merci.
Aujourd'hui, nous saluons une nouvelle rubrique, Les Mardis, de Stéphane Venanzi. Stéphane Fanzigneux, depuis bientôt 25 ans. Aujourd'hui, il nous présente le premier film de Ermanno Olmi, cinéaste italien connu par le grand public, surtout pour son film L'Arbre au sabot, qui obtient la Palme d'Or à Cannes, c'était en 1978. Ce film s'appelle Il tempo si è fermato, Le temps s'est arrêté. Il est à l'affiche de la Cinémathèque suisse demain, mercredi à 18h30, dans le cadre de ce grand réalisateur italien.
Les Mardis de Stéphane Venanzi.
Un réalisateur qui fait tourner Bud Spencer, même si Terence Hill n'est pas de la partie, ne peut aucunement être mauvais, indubitablement. Et Le temps s'est arrêté, le premier long-métrage de fiction d'Ermanno Olmi nous le confirme. D'une facture superbe, noir et blanc très pur, total scope utilisé sans ostentation, avec un sens du cadre d'une picturalité typiquement italienne, cette fable montagnarde âpre nous démontre avec beaucoup d'intelligence et de sensibilité, mais sans la moindre sensiblerie, que face aux éléments déchaînés, face à l'adversité, deux ouvriers que tout sépare, l'origine sociale, l'âge, l'éducation, et même à quelque part la langue, l'un s'exprimant exclusivement en dialecte, l'autre en bon italien gentiment appris à l'école, que deux ouvriers que tout sépare peuvent, en cas de besoin, laisser leurs différences de côté et s'entraider sans arrière-pensée. Autrement dit, que la fraternité humaine n'est pas un concept creux, mais une réalité tangible.
Bisacco, sfasato, distratto, suonato, da te. Questo rock molto matto lo sai che cos'è e la prova chiamo solo te, perché sei una ragazza abitata così, ti manca tutti bene.
Quant au reste du film, souvent drôle, il témoigne aussi du souci documentaire accordé par le réalisateur aux gestes des hommes. Gestes simples, mais signifiant une raison précise, une utilité. D'ailleurs, Herman Holmi avait commencé sa carrière, et semble vouloir la terminer, de cette manière, en documentant le réel. Et si le temps s'est arrêté et projeté demain 23 mars à 18h30 à la Cinémathèque, dans le cadre de la rétrospective qui lui est consacrée jusqu'à fin avril, vous pouvez, grâce à YouTube et à la chaîne nommée Edison Channel, découvrir une conséquente portion de cette autre facette de son œuvre, puisque celle-ci de chaîne repropose 15 de ses premiers courts-métrages, et en particulier Cantier et d'Inverno, le film dont il s'est successivement inspiré pour réaliser Le temps s'est arrêté. À la semaine prochaine.
Les mardis de Stéphane Venanzi.
Cinq sujets au sommaire de ce grand direct de ce mardi 22 mars 2016. The Lausanne Rolling Furies, le bilan après un an du collectif R, les étudiants syriens en Suisse, Albert de Gruffy et les mardis de Stéphane Venanzi. C'est ce dont on vous parlait ce soir. Toutes ces chroniques sont à retrouver et à réécouter en podcast sur notre site www.django.fm. La semaine prochaine, ce sera les vacances de Pâques. On vous propose donc de retrouver, comme chaque semaine, votre grand direct entre 18 et 19h, mais cette fois-ci en nouvelle diffusion. Je vous donne donc rendez-vous mardi prochain à partir de 18h pour un nouveau grand direct. Dans l'immédiat, je vous souhaite une très belle suite de soirée à l'écoute de nos programmes.